Radio Kapi.
Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité sur Radio Kapi, audition des deux suspects arrêtés par la police nationale au lendemain du meurtre à Kinshasa du député national Chérubin Okende. Il s'agit du garde-corps et du chauffeur de l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication. En réaction à ce drame, la voix des 100 voix pour les droits de l'homme VSV parle de similitude avec l'assassinat de Floribert Chebé à Bahiri il y a quelques années. Et puis, le corps diplomatique salue la décision prise par le gouvernement congolais d'œuvrer pour que justice soit rendue. Notre invité, c'est le bâtonnier du Haut-Katanga. Maître Jean-Paul Kitenge affirme que le 55e anniversaire de leur barreau est une occasion offerte pour les avocats de se remettre en question afin de bien assumer leur charge. Madame, Messieurs, bonsoir. Deux suspects ont été arrêtés par la police nationale de Kinshasa deux jours après l'assassinat de Chérubin Okende, député national et ancien ministre des Transports et de Communication. Depuis hier, en effet, ces suspects sont auditionnés par le parquet de grande instance. Selon nos sources, il s'agit du garde-corps et du chauffeur du défunt. Explication de Jeff Ngoy.
À ce stade de l'instruction préjuridictionnelle encore secrète, pas assez de détails qui filtrent du dossier. Selon nos sources, lorsqu'il y a corréité de l'infraction, la juridiction civile peut s'en saisir conformément à l'article 135 de l'ordonnance relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. D'après cette disposition, à moins que la loi n'en dispose autrement, les procès-verbaux sont obligatoirement transmis au procureur de la République ou son représentant au parquet de grande instance dans le ressort duquel l'officier de police judiciaire exerce ses activités. Et à la fin de l'instruction, le parquet de grande instance appréciera la compétence. Mais en attendant, la police provinciale de Kinshasa détient les suspects. Plusieurs chancelleries et organisations des droits de l'homme plaident pour la célérité de l'enquête et pour que justice soit réellement rendue sur les circonstances de ce crime. Les autorités judiciaires et politiques de la RDC mesurent déjà la gravité des faits et tablent sur une enquête pluridisciplinaire avec la collaboration des services étrangers pour plus de transparence.
Merci Jeff Ngoy pour ces précisions. En réaction, le directeur exécutif de la voix de 100 voix pour les droits de l'homme VSV affirme que Chérubin Okende est mort dans les circonstances similaires à celles de Floribert Chebé à Bahiri. Rostem Anketa exige une enquête indépendante. Il le dit à Jeff Ngoy.
Ce genre de crime, en principe, devrait relever du passé après l'alternance politique en République démocratique du Congo. La voix des 100 voix pour les droits de l'homme exige une enquête réellement indépendante pour que les auteurs, commanditaires, exécutants répondent effectivement de leurs actes criminels. À voir la manière dont le député national a été assassiné, cela nous rappelle la tragédie, l'assassinat de Floribert Chebé Abaïzi, ancien directeur exécutif de la Voix des 100 voix pour les droits de l'homme, disparu la veille, le 1er juin, et dont le corps sans vie a été retrouvé dans la voiture de l'organisation. Il faut que la justice fasse son travail en toute indépendance pour que cet acte, qui ne constitue pas moins un grand recul par rapport aux avancées déjà enregistrées après cette alternance, ne puisse plus se répéter.
À Lubumbashi, tout le monde veut savoir pourquoi Chérubin Okende a été tué. Les uns et les autres se remettent à la justice. Pour en parler, retrouvons Lubumbashi, Jean Gandou Kabongo.
La disparition de ce cadre de Ensemble pour la République a plongé dans la consternation de nombreuses personnes. Ces dernières se recrutent aussi bien dans la classe politique que dans la société civile. Et à cela s'ajoutent les réactions enregistrées sur les réseaux sociaux et auprès des citoyens lambda. Pour les acteurs politiques, toutes tendances confondues, les questions qui se posent sont celles de savoir qui a tué Chérubin Okende, pourquoi l'a-t-il tué et pour quelle fin ou encore à qui profite ce crime. Un autre membre de la société civile qui regrette cet acte qu'il qualifie d'ignoble espère toutefois que toute la lumière sera faite afin que la vérité soit connue. Pour un autre, quelle que soit l'issue de l'enquête, la classe politique aura déjà perdu un de ses membres qui devait jouer un rôle dans la société, qui sait. Il espère toutefois que les résultats de l'enquête ne vont pas moisir dans les tiroirs de ceux qui vont les mener. Certaines chaînes de télévision locales ont organisé des émissions au cours desquelles la question de la disparition tragique de Chérubin Okende était débattue, parfois avec passion et émotion. Entre-temps, nous apprenons que certaines ONG de défense des droits de l'homme s'apprêtent à publier un communiqué de presse commun irrelatif. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis la MONUSCO condamne le meurtre de Chérubin Okende et salue la décision prise par les autorités du pays d'œuvrer pour retrouver les coupables et rendre justice. De leur côté, les États-Unis d'Amérique exhortent les autorités de la RDC à faire avancer l'enquête qui a été promise sur ces drames. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, souhaite quant à lui que les auteurs du crime subissent la rigueur de la loi. Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville, recommande que ce crime fasse l'objet d'une enquête sérieuse et que les coupables soient punis. Alberto Pantrangi, qui est ambassadeur de l'Italie en RDC, plaide quant à lui pour que la lumière soit faite sur ces crimes. La violence d'où qu'elle vienne est d'une raideur repoussante, car cette violence détruit systématiquement la dignité de l'homme créé à l'image des dieux. Propos tenu par l'archevêque métropolitain de Kinshasa dans son homélie ce vendredi lors du 35e anniversaire du mouvement d'action catholique Sacré-Cœur de Jésus. Le cardinal Ambongo Besungu a invité l'assemblée chrétienne à prier pour le repos de l'âme de Chérubin Okende, chrétien catholique de la ville de Kinshasa, et de prier aussi pour la RDC qui va à la dérive, selon lui. Autre nouvelle sur Radio Okapi, en ce jour, en ce moment, à Goma, au Nord Kivu, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a échangé hier, jeudi après-midi, avec le gouverneur du Nord Kivu. Rien n'a filtré de cette rencontre. Juste après, Madame Bintou Keïta a visité la base militaire de la MONUSCO à Mubambiro. Par la suite, il a rencontré à Munigi les femmes médiatrices du territoire de Nyiragongo sous les violences basées sur le genre dans les camps de déplacés de Kanyaruchinya. Un reportage de Rosalie Zawadi rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
Au gouvernorat des provinces le matin, Madame Bintou Keïta rencontre celle de lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire du Nord Kivu. Les services du gouvernorat, tout comme les membres de la délégation de la MONUSCO, qui patientent dehors, expliquaient la traitien porte sur l'analyse de la situation sécuritaire actuelle en province. Après cette rencontre, direction Mubambiro. Ici, elle visite la base militaire de la MONUSCO. Au sein de la base, elle est informée de la situation sécuritaire en province. Madame Bintou visite aussi les troupes de la base. Quelques femmes de Mubambiro venue la rencontrer, lui demande de s'impliquer pour le retour de la paix dans leur territoire. Elle sollicite également la réouverture de la route Sake-Kichanga pour permettre à la contrée de Sake de reprendre vie. Ces femmes ont également déploré les nombreux croissants des cas de violences sexuelles à cause de l'insécurité dans cette zone. Selon ces femmes, Madame Bintou Keïta a promis son implication dans la recherche des solutions durables aux questions de sécurité en province du Nord Kivu.
Nord Kivu, encore au moins 100 vaches appartenant aux habitants de la localité de Katunda dans le secteur d'Osso-Banyungu, territoire de Massissi, ont été volées hier jeudi par les miliciens de la PCLS. Les autorités locales et la société civile du territoire ont du mal à confirmer ou infirmer cette information car la zone est totalement sous le contrôle de plusieurs groupes armés. À Goma, Gabriel Omenya.
Le piège est survenu hier jeudi à Katunda en début d'après-midi lorsqu'une division de la milice de la PCLS de Janvier Kalairi, qui contrôle le secteur allant de Nyambaboko premier dans la chefferie de Baoundé jusque dans le secteur de Katoi, était en patrouille dans la zone. Les sources du comité local de la jeunesse de Katunda affirment que c'est en titre de représailles que ces vaches étaient arrachées par ces miliciens à leurs bergers. Ces sources précisent que les combattants de la PCLS accusent les populations de ces villages d'être en connivence avec les milices rivales à la PCLS de Janvier Kalairi. C'est notamment une faction de Pareko dirigée par un certain Sendugu Museveni et une faction de la milice Kifuafua dirigée par deux généraux autoproclamés Machano et Birikoriko. Pour le président du conseil territorial de la jeunesse du territoire de Masisi, Luambo Mufuni, il est actuellement difficile de confirmer ou d'infirmer ces cas de pillage des vaches dans cette zone où plusieurs groupes armés font la loi. Cet acteur dit poursuivre les enquêtes avant de donner un bilan définitif de ces pillages présumés. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Le président du conseil d'administration de Primera Gold recommande vivement l'érection d'une raffinerie digne de ce nom en République démocratique du Congo au regard d'énormes potentialités en or dont regorge le pays. Vagheni Paipai reconnaît tout de même qu'il faudra atteindre une masse critique en termes de quantité d'or pour donner un sens précis à un tel investissement. Il a dit à l'issue de la visite de délégués des actionnaires congolais de Émirats à la raffinerie d'Abu Dhabi. Il s'est confié à Jean-Marc Matouaki.
Ici, nous avons eu l'occasion avec les autres administrateurs de la société de visiter la fonderie, mais aussi et surtout d'assister au processus de raffinage de l'or depuis son arrivée jusqu'à l'extraction de toutes ses impuretés pour obtenir une teneur pure à 99,9%. Il est important de souligner qu'à terme, ce traitement de l'or se fera en RDC avec notre propre raffinerie dans les installations de Primera Gold RDC. Mais avant cela, au préalable, nous devons d'abord atteindre une masse critique de quantité en termes de quantité pour donner un sens à l'exploitation d'une telle raffinerie en RDC. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, Primera Gold a exporté 2 tonnes d'or dans 650 kilos seulement au courant du mois de juin. Ce rythme de croisière nous rend confiants quant à l'objectif d'une tonne d'or d'ici le mois de décembre 2023 que nous souhaitons atteindre. Cette tonne d'or représentera un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars par mois qui sont rapatriés mensuellement dans nos banques commerciales.
Notez que Primera Gold est une entreprise du portefeuille de l'État congolais dont les activités portent notamment sur l'achat, la commercialisation et l'exploitation de l'or issu de l'exploitation artisanale.
Actualité internationale.
Des enfants ghanéens ont été enlevés ce vendredi matin de chez eux dans le cadre d'une opération soutenue par l'une des principales organisations anti-esclavagistes au monde. L'organisation caritative de plusieurs millions de dollars américains vise notamment à sauver les enfants victimes de la traite et à les réunir avec leurs familles respectives. Mais des sérieuses préoccupations ont été soulevées au sujet notamment de leurs opérations en Afrique de l'Ouest. Les autorités sénégalaises dénoncent aujourd'hui les informations qui circulent sur les réseaux sociaux qui font état de la disparition de 300 migrants clandestins partis de Kafountiné au sud du pays. Dans un communiqué publié ce matin, ces organisations disent avoir procédé à des vérifications sérieuses et que ces informations sont dénuées de tout fondement. Un peu plus tôt, les gardes-côtes espagnols ont annoncé avoir sauvé 86 personnes d'un bateau des migrants au large des îles Canaries. Et puis l'OTAN acceptera bientôt l'Ukraine lorsque ce pays aura rempli les conditions nécessaires. Déclaration faite par le secrétaire général de l'Alliance militaire atlantique au lendemain du sommet annuel tenu à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Le secrétaire général de l'OTAN s'est engagé également à accélérer l'adhésion de l'Ukraine en deux étapes qui dépendront exclusivement d'une décision politique. Notez par ailleurs que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a regretté que la voix de son gouvernement n'ait pas été entendue jusqu'ici dans les négociations jusqu'à présent.
L'invité.
Notre invité, c'est le bâtonnier du Haut-Katanga. Maître Jean-Paul Kitenge affirme que le 55e anniversaire de leur barreau est une occasion offerte pour les avocats de se remettre en question afin de bien assumer leur mission. Il s'entretient à Lubumbashi avec Jean-Gandou Kabongo.
Bâtonnet Jean-Paul Kitenge, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi célébrer la journée du barreau ?
Bon, nous célébrons la journée du barreau parce que c'est un anniversaire. Comme vous le savez, le barreau congolais est né le 10 juillet 1968. De deux, c'est pour réfléchir sur l'avenir de notre barreau, faire un bilan, échanger sur des questions de l'avocat, son rôle dans la communauté. C'est aussi pour renforcer la confraternité entre avocats. C'est une occasion pour nous de remettre aussi en question tout ce que nous avions pour permettre aux avocats de se sensibiliser, de sensibiliser la société pour que la société se rende compte réellement de son rôle et de son importance.
Et parlant de la situation des avocats, comment est-elle en ce jour, notamment ceux de votre ressort ?
Nous sommes en train de fournir un effort pour que les avocats soient toujours les personnes qui peuvent, dans la mesure du possible, apporter un soutien, une assistance, un appui à l'appareil judiciaire. La situation n'est pas très bonne, la situation n'est pas très mauvaise aussi. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire un effort pour que le rôle de l'avocat soit d'abord compris par la population et que cet avocat joue réellement son rôle. Sa mission, conformément à notre loi organique, dont la loi de 79, qui veut que l'avocat puisse avoir une mission non seulement judiciaire, c'est-à-dire devant les cours et tribunaux, mais aussi sa mission en tant qu'accompagnateur dans le cadre des extrajudiciaires.
Bâtonnet Jean-Paul Kitenge, vous avez parlé de la justice et sûrement que vous avez suivi le chef de l'État qui a décrié le fonctionnement de la justice. Et vous, votre corps qui est auxiliaire de justice, comment compte-t-il contribuer au redressement de l'appareil judiciaire dans notre pays ?
Oui, nous avons tous suivi le chef de l'État qui a placé un mot par rapport à la justice. Il n'est pas satisfait. Nous, en tant qu'auxiliaire de justice, avocats, nous continuons à lutter contre, par exemple, le cas des violations des droits de l'homme. Nous apportons notre pierre pour, dans la mesure du possible, jouer à cet équilibre de la justice et ramener les choses à un état de droit tel qu'attendu par le chef de l'État.
D'après vous, qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas très bien ?
Je crois que ça part de décisions qui sont rendues, non seulement au niveau des cours et tribunaux, mais au niveau de l'instruction ou bien au niveau de la phase préjuridictionnelle qui est une phase privée. Il y a quand même beaucoup à redire en tant qu'avocat, mais nous sommes convaincus qu'avec un peu de volonté, avec un peu de détermination, on peut toujours arriver à faire quelque chose parce que la justice reste un idéal. C'est-à-dire, nous tendons vers une justice. La justice juste n'existe pas encore, mais on fait un effort pour que nous puissions arriver à une justice.
Une certaine opinion indique qu'il y a des magistrats véreux qui seraient aussi appuyés par certains avocats véreux également, ce qui fait que par moment, il y a certaines décisions de justice qui ne sont pas rendues selon les normes en la matière. Vous, en tant que bâtonnier, quelles sont les mesures qui sont prises pour que ceux qui s'adonneraient à de telles pratiques puissent être remis sur les rails ?
Vous savez, nous sommes un ordre. Nous sommes un barreau qui est bien organisé. Nous avons un organe disciplinaire qui est le Conseil de l'Ordre. Et ce Conseil de l'Ordre a pour mission, notamment, de sanctionner les avocats qui travaillent à marge de nos règles déontologiques. Alors, les faits doivent être dénoncés, ce qui est tout à fait évident. Dès que les faits sont dénoncés et que le Conseil de l'Ordre, le bâtonnier s'est saisi, ou bien il y a des plaintes qui sont déposées contre les avocats, le Conseil de l'Ordre siège et sanctionne. Et nous pouvons même pousser le raisonnement très loin en disant, au-delà de la déontologie, au-delà de notre éthique, il y a le Code pénal qui sanctionne des avocats qui se livrent dans des faits qui sont infractionnels. Donc, nous demandons à ceux qui sont victimes de ces cas de saisir le Conseil de l'Ordre pour que ces derniers puissent s'instruire et puis voir comment sanctionner.
Pour terminer, est-ce que la population de votre ressort a la culture d'avoir les avocats ?
Oui, ça c'est une question qui est très profonde, pour ne pas dire pertinente. La population a avoir la culture. Vous savez, l'avocature n'est pas de notre culture. Nous l'avons héritée. Nous faisons plutôt un effort pour que la population comprenne. Alors cette population, il faut la distinguer. La population en tant qu'opérateur économique, la population en tant que population civile associée. Ça nous ramène à comprendre une chose. Les opérateurs économiques aujourd'hui comprennent que non, ils ne peuvent pas travailler sans l'accompagnement des avocats, ce qui est tout à fait garantissant pour leurs activités. Ça, c'est un. Mais la population civile, n'a pas encore cette culture d'avocat. C'est l'effort que nous sommes en train de fournir chaque jour pour que cette population comprenne que non, elle est obligée de comprendre l'importance de l'avocat.
Bâtonnier Jean-Paul Kitenge, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
C'était l'invité de Radio Okapi ce soir, le bâtonnier du Au Katanga, maître Jean-Paul Kitenge a été interviewé à Lubumbashi par Jean-Ganduka Bongo. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Je remercie infiniment Noël Aluzi Tukabambi qui m'a accompagné.